Ici, on dit « Gouhan ». « Gouhan Vin ».
Marcel Guillou.
Chouette. Blanche. Et on entendait la nuit.
Et il se trouve juste dans le pignon de la maison. Il y a des trous pour l'aération autrefois. Et ils ont... On va aller par l'autre côté, si on... Non.
Amédée Barzic.
Peut-être que je vous aurais donné une paire de bottes.
J'aurais dû y penser.
Je vais vous donner une paire de bottes.
C'était pendant la guerre. Alors, on allait au moulin, mais à travers champs. Et, en plus, si on pouvait, la nuit.
Il y a deux fils, Laurent et puis.
Je vais passer par-dessus comme ça.
Il n'y a pas de courant ni rien.
Je vais passer là-dessus.
J'avoue.
C'est bon.
Oui, crochet dans le poteau là-bas. C'est à cause des chiens. Autrement, ils rentrent dans le potager. Et comme ça, je leur mets du courant. Et comme ça, ils ne viennent pas.
Et je me rappelle que je suis allé avec mon père. Et ça s'appelait le moulin de Kevastar.
Leur crotte, ils les jettent dehors. Ah, oh, ça dégouline. En ce moment, il y a des petits. Oui. À l'abri, hein. Pourtant, quand on est en train de biner dans le jardin le soir, on l'entend bien maintenant. Ben, à ces heures-ci, puisque je vais au jardin en attendant que la nuit tombe, quoi.
Il faudrait enregistrer les minutes de silence. D'abord, pour voir si elles font vraiment une minute, et surtout parce que aucune minute de silence ne ressemble à une autre minute de silence. Voilà ce qu'il faudrait faire. C'est la première chose qu'il m'a dite, et c'était en 1976. Et on vient d'apprendre que Yann Parentoen a lâché son agra il y a quelques heures, cette nuit. Yann Parentoen, dès qu'on dit Yann Parentoen, on ajoute sculpteur de son, tailleur de son, ingénieux du son. Yann Parentoen a été technicien à Radio France, mais il a été surtout un producteur de documentaires radiophoniques. J'hésite à le dire parce que ce qu'il a produit pendant des années est tellement... peut sembler tellement curieux que c'est pas tout à fait non plus de documentaire. Il a été un des plus grands créateurs et défenseurs de l'expression et du langage radiophonique. C'était un révélateur sensible, un artiste et un maître et un ami de la basse J'y suis. C'est-à-dire que cette émission lui doit tout. Et demain, on lui rendra un hommage avec une émission que nous avions enregistrée avec lui en 1999, il y a quelques années. Et surtout, évidemment, bien sûr, en hommage avec une pensée pour les siens, ses proches, ses enfants, etc. Mais aussi un peu comme un manifeste à un moment où nous assistons à l'appauvrissement du langage radiophonique, où nous assistons à la disparition du reportage, de la fiction, de l'écriture radiophonique, au profit du bavardage, de la promotion de produits culturels. Les journalistes des rédactions ayant pris le pouvoir sur la radio aux dépens de tout ce qui est la radio elle-même, c'est-à-dire le langage radiophonique lui-même. Parentohen adorait répéter qu'on était en présence, on disposait d'un orchestre radiophonique, mais c'était toujours le même gars qui jouait du même clairon dans le même coin de la salle, ou bien que on avait un piano, mais on ne jouait que d'une seule note. Alors voilà, on lui rendra hommage demain, évidemment, c'était un titre tout à fait étonnant et stimulant que Parentohen, il disait que il avait inventé un langage. C'est vrai que la radio permet ça, et c'est Radio France qui a permis évidemment à quelqu'un comme Parentohen d'exister et de travailler et de produire ce qu'il a produit, mais il pensait avoir inventé un langage radiophonique, et il disait inventer un langage, c'est comme mettre une bombe quelque part, c'est un acte révolutionnaire. Lorsque j'étais enfant, j'étais privé de ma langue et de ma culture. Yann était breton, très attaché à sa langue et à son histoire et à celle de son père qui était tailleur de pierre. Et il s'était aperçu que les pierres que son père taillait là-bas, chez eux à l'île Grande, en Bretagne, eh bien c'était les pavés qu'on retrouvait sur le tracé du Paris-Roubaix. Aussi, Parentohen a-t-il fait des dizaines et dizaines, je crois une centaine de Paris-Roubaix. Il les a suivis, il en a fait des émissions de radio, ces fameux documentaires radiophoniques dont on reparlera demain.
Quand on met deux sons bout à bout, il faut que ça, quand même plus un, ça fasse trois, quoi. Si ça fait deux, ça n'a pas l'intérêt, quoi. Il faut que la rencontre de deux sons donne naissance à une troisième situation. Et ça, c'est pas toujours facile, hein.
Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, malignement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, minue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnaient d'aise ses petits pieds, si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonner dans son sourire, et sur son sein, mouche rosier. Je baisais ses fines chevilles, elle eut un long rire très mâle qui s'égrenait en clair trille, une rissure de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. « Veux-tu finir ?» La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvre, palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. « Oh, c'est encore mieux !»« Monsieur, j'ai deux mots à te dire. » Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets, aux vitres penchaient leurs feuillets, malignement, tout près, tout près. Arthur Rimbaud.
Bonjour, je suis Daphné, 14 ans, de Pélissanne dans les Bouches-du-Rhône. À 14 ans, je suis en troisième. Et je proteste contre le projet de loi Fillon. Je suis totalement contre. Parce que, c'est instaurer le contrôle continu au bac, restreindre les options et supprimer les TPE, c'est pas du tout une bonne solution, à mon avis. Mon collège et moi avons décidé de faire une manifestation, un blocus devant le collège, un sitting et tout ce qui s'ensuit. Et donc, nous sommes arrivés ce matin et, bien sûr, nous avons été forcés de rentrer dans le collège en nous disant que nous, collégiens, nous n'avions pas le droit de grève. Or, nos parents étant au courant, puisque mes parents étant profs moi-même, on a été forcés à nous dire oui, les lycéens, eux, ont le droit de grève, mais pas nous. Je trouve ça totalement révoltant d'être... parce que c'est quand même notre avenir, plus même que les terminales. C'est notre avenir, puisque si la réforme est instaurée en 2005, c'est nous qui en pâtirons plus tard. Je suis totalement contre et je trouve ça totalement débile de nous interdire de faire la grève. Merci à mon papa et à maman de me faire écouter tout ça. Gros bisous à tous et puis merci. Au revoir.
L'affaire Gaymard me rappelle étrangement l'affaire Chaban d'il y a un certain nombre d'années. À l'époque, le canard enchaîné avait déjà révélé que Jacques Chaban-Delmas, alors personnage politique de premier plan, ne payait pas d'impôts sur le revenu, et ce, légalement, grâce à l'avoir fiscal. L'affaire, à l'époque, avait fait grand bruit. Comme Hervé Guémard, il avait dû s'expliquer devant les Français. Et dans les deux cas, les conséquences ont été désastreuses pour les intéressés. Mais dans les deux cas, les choses étaient légales. Et moi, je m'interroge sur cette République qui annonce le principe d'égalité et qui donne tant de privilèges à ses représentants. Car quand même, on oublie un peu vite que la location de l'appartement d'Hervé Guémard avait été signée par le cabinet du Premier ministre. Et après le cas Chaban, c'est la diffusion des feuilles d'impôt qui est devenue illégale. Et dans le même esprit, est-ce qu'on pourrait parler aussi des frais de fonctionnement de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale? Voilà, c'est Lise. Au revoir.
Oui, bonsoir Daniel et toute l'équipe de là-bas si j'y suis et tous les auditeurs de France Inter. Voilà, Axel de Boulogne-sur-Mer, bien je vous téléphone parce que ben, cette nuit c'est la vague de grand froid qui continue et qui s'empire. J'entends parler des abris pour les SDF, qui est une très bonne chose. Et puis ben mes pensées vont vers les réfugiés de Calais. Et eux, où vont-ils dormir cette nuit? Dans quelles conditions? Rien n'est fait pour eux, rien n'est réfléchi, et on s'en fout. Voilà, ben, je voulais dire ma révolte par rapport à ça. Bonne soirée, au revoir.
J'ai assisté hier soir à une conférence de Valéry Giscard d'Estaing sur le traité constitutionnel européen, et j'ai été profondément dépité, choqué de la manière dont ce monsieur se moque du monde. C'est une succession de mensonges. Que ce soit volontairement ou par omission. Donc un exemple très concret, attention, je cite Monsieur Giscard, c'est un texte relativement simple en 60 articles. Ces articles sont brefs et notre constitution française comporte environ 80 articles. Pour l'Europe, c'est donc un texte relativement léger et concentré. Fin de la citation. Je rappelle que ce texte comporte très exactement 448 articles, sans compter les annexes. Au total, nous devons donc nous prononcer sur 350 pages, et 750 pages si on compte les annexes. Donc Monsieur Valéry Giscard d'Estaing ment en public, devant les caméras de télévision, devant la radio, et je ne crois pas que cette information ait été relevée. Voilà, donc la vigilance continue, je suis plus motivé que jamais pour que le non remporte la victoire au référendum. Et, bon ben, salut à tous, portez-vous bien, ciao.
Je suis absolument scandalisé, je viens d'appeler... le 0810-2005-25, qui est le numéro proposé par le gouvernement pour donner des informations sur la Constitution européenne. Je suis tombé sur une très gentille dame, mais la pauvre qui n'y connaissait absolument rien, qui semble-t-il avait à peine lu le traité. Je lui ai demandé comment elle avait été formée, si elle avait fait du droit. Elle m'a dit oui, on a été formé. Je lui ai demandé une question très simple. Je lui ai dit la concurrence libre et non faussée, concrètement, qu'est-ce que ça va changer en France? Et elle m'a répondu très très gentiment, écoutez monsieur, pour des questions aussi précises, je ne suis pas formé. Donc elle était formée apparemment pour me dire si c'était une traité ou une constitution, mais pas pour me signaler par exemple que la séparation des pouvoirs dans cette constitution n'est pas respectée, pas pour me parler de la concurrence libre et non faussée. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs à appeler le 0810-2005-25 et à bombarder de questions très intéressantes les gens formés, je ne sais comment, par le gouvernement. Ce serait vraiment intéressant d'enquêter sur comment ces gens ont été formés et qui sont-ils. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et puis bon courage. Au revoir. C'était Aurélien à Thonon-les-Bains.
C'est quand qu'on pense, au lieu de réagir, au lieu de s'indigner, au lieu de râler, c'est quand qu'on pense, pour faire du fer, pour faire du nouveau, pour faire de nous, d'autres penseurs, d'autres faiseurs. Il y en a besoin.
Voilà les messages du jour sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, c'est le jour du diplôme. le lundi du diplo, et c'est le numéro de mars dont on va parler avec la fine équipe du Monde Diplomatique. C'est Guy Ventil qui anime le débat, mais oui, pourquoi pas. Et dans les jours prochains, on aura une émission après-demain avec Sylvain Sipel et Denis Siffert sur deux livres tout à fait passionnants sur la question du Proche-Orient. Nous revenons du Proche-Orient, on vous présentera une série de reportages dans les jours ou semaines qui viennent, ça va dépendre du temps de montage tout simplement, mais je voulais tout de suite vous parler de ces deux bouquins dont nous parlerons dans les jours qui viennent. Le bouquin de Denis Siffert, c'est Israël-Palestine, une passion française, et cette passion s'est à nouveau rallumée, si toutefois à un moment ou à un autre elle avait failli. Et puis le livre tout à fait passionnant, alors là un grand livre de Sylvain Sipel sur qui s'intitule Les Emmurés ou la société israélienne dans l'impasse. C'est un livre qui va faire grand bruit. Donc le diplo avec beaucoup de dossiers passionnants, enfin de papiers de dossiers passionnants, notamment un long papier sur les Arméniens. C'est pas très fréquent qu'on parle des Arméniens. Un papier sur, que je vous signale comme ça à la volée, sur le photojournalisme, comment d'Abu Ghraib au tsunami, eh bien les photographes amateurs, les témoins comme ça remplacent les journalistes professionnels. Ça, c'est un thème évidemment passionnant. Et puis surtout, un grand dossier sur l'eau, qui est une question prépondérante et dont on n'a pas la notion chez nous qui avons la chance d'habiter un pays tempéré. Mais justement, ce Proche-Orient dont nous venons est hanté par ce problème de l'eau. C'est presque le premier problème dans cette région du monde. Donc, le diplo de mars. Avec Bernard Cassen, Serge Limi, Dominique Vidal et toute l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Bernard Cassen, dans ce numéro du Monde Diplomatique, avec un article sur l'école républicaine mise en danger, où après les mobilisations qu'il y a eu en 2003, après le soufflet qui est retombé et les engagements encore en cours, toujours ce spectre de la privatisation de l'école, et en tout cas de ce service public qui a besoin de compétitivité et d'efficacité.
Oui, je crois que les mouvements sociaux qui ont déjà eu lieu, les mouvements lycéens qui continuent, et la grande manifestation qui est prévue le 10 mars prochain, vont avoir en partie pour thème l'école. Pas seulement la réforme du baccalauréat, qui est un aspect presque, je dirais, secondaire par rapport à l'ensemble des enjeux, mais l'avenir même, la conception même de l'école. Il faut voir que aujourd'hui, les politiques nationales en Europe ne sont plus nationales. Elles sont décidées au niveau européen, et même au-delà, au niveau de l'OCDE, qui fait des préconisations qui sont suivies à la lettre. Et d'ailleurs, le projet de loi Fillon est accompagné de documents qui resituent sa réforme, entre guillemets, dans le cadre de la stratégie dite de Lisbonne. Il s'est passé, il y a 5 ans, un conseil européen qui a défini les grandes lignes pour 10 ans de ce que devait être une stratégie dite de Lisbonne, justement, visant à faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Ce qui peut-être même était une alliance de mots, à mon sens. Et le projet de loi Fillon est une application absolument directe de tout cela. Alors, les lycéens et les enseignants se révoltent contre tel ou tel aspect de la réforme, mais je pense qu'il faut aussi qu'ils se rendent compte qu'elle fait partie d'un contexte beaucoup plus vaste, et qu'aujourd'hui, ce sont les critères de rentabilité, de performance, de calcul des performances, mais il y a un jargon là que l'auteur cite.
Louis Weber,
oui. Les objectifs de l'éducation doivent, alors je lis, être finalisés dans des programmes déclinés en actions accompagnés d'indicateurs de performance. Voilà un langage bureaucratique, technocratique, qui montre comment aujourd'hui ce n'est plus simplement, ou peut-être plus du tout d'ailleurs, la mission de transmission des connaissances, de formation du citoyen qui est l'objectif de l'école, mais plus précisément l'objectif de rentabilité, d'adaptation aux emplois du futur, c'est-à-dire aux emplois précaires pour lesquels le fameux socle de connaissances minimales sera largement suffisant. Il s'agit d'adapter l'école, entre guillemets, au monde actuel, d'insuffler notamment l'esprit d'entreprise dans le système éducatif. Et on est entré dans un processus de marchandisation de l'école. Et là, nous avons, dans le cadre de cette réforme Fillon, une insertion de la France dans un dispositif européen global qui lui-même s'intègre dans un dispositif international de privatisation, de libéralisation de tout. Et notamment des politiques éducatives.
Bernard Cassin, nous parliez des lycéens qui manifestent contre le bac en contrôle continu, ce qui est à peu près enterré, si j'ai bien compris.
Oui.
Et les universitaires qui manifestent en mettant les plus avancés dans ce processus de privatisation des universités qui deviennent compétitives les unes avec les autres. Mais est-ce que toutes ces mobilisations, en fait, ne sont pas vouées, justement, à se soumettre à ce mouvement de fond que vous décrivez?
Ah ben ça, c'est seul l'avenir nous le dira, mais je crois qu'il y a une conscience de plus en plus grande de l'interconnexion entre toutes les réformes. Tout se tient, ce sont des stratégies globales qui sont définies au niveau de l'OCDE, au niveau de la Commission européenne, au niveau de la Banque centrale européenne, et qui ensuite sont appliquées par les ministres dans chaque pays, dans chaque gouvernement. On retrouve évidemment tout cela dans les logiques mêmes de la Constitution européenne, dont la norme reste la concurrence libre et non faussée, y compris la concurrence dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de recherche, etc.
Il faut rappeler que dans les mobilisations, il y a aussi le 9 mars, le collectif Sauvons la Recherche qui manifeste et qui est vraiment un des éléments très importants. C'est tout le système d'éducation et de recherche qui est mise en cause. Alors, ça fait partie de quelque chose de plus vaste, mais on touche là à quelque chose qui est au cœur de l'idéal républicain, c'est-à-dire l'idée de la formation, de l'enseignement, du citoyen, de l'enseignement, etc. C'est ça qu'on est en train de casser de manière systématique.
Mais en nous proposant quel monde idéal, justement ? On casse, voilà, le modèle cassé, mais qu'est-ce qu'on nous propose concrètement ?
Je dirais que le monde idéal du néolibéralisme, c'est justement de ne pas avoir d'idéal. C'est de dire chacun pour soi et contre le voisin. C'est-à-dire, c'est ça le monde idéal. Et de ce point de vue, c'est presque, on pourrait dire, c'est une idéologie sans idéologie. Vivez pour gagner plus de manière individuelle et écraser les autres, c'est votre seul moyen de réussir. On fait dans ce numéro d'ailleurs un compte-rendu du film de Costa Gavras qui raconte l'histoire d'un cadre qui est licencié et qui voit comme seule solution à sa réembauche le fait d'assassiner tous ses concurrents. C'est ça l'idéal du néolibéralisme. Je m'excuse d'en rajouter quelque chose. On publie dans ce numéro les bonnes feuilles d'un livre que nous publions sur mai 68. Et je crois que c'est très important en ce moment.
Comment s'appelle l'auteur? C'est un universitaire américain.
Une universitaire américaine sur mai 68 qui fait surtout le bilan de tout ce qu'on a oublié de mai 68. C'est-à-dire tout ce que les commémorations successives, le 10e, le 20e et le 30e anniversaire, ont essayé de gommer du mouvement de mai 68, c'est-à-dire son caractère radical, c'est-à-dire son caractère social, le fait que ça a été un mouvement des ouvriers et des étudiants ensemble.
Et qui se parlaient souvent pour la première fois.
Qui se parlaient pour la première fois, qui allaient à la rencontre les uns des autres. Et ça a été aussi un mouvement lié à la solidarité internationale, au Vietnam, à la guerre d'Algérie, etc. Et qu'on a réduit aujourd'hui à une espèce de happening des étudiants qui découvraient la liberté sexuelle. Et je crois que c'est très important aujourd'hui parce que l'auteur conclut son livre sur 1995-96, le grand mouvement contre la réforme Juppé, pour dire qu'il y a effectivement une spécificité française de résistance et de refus de cette idéologie néolibérale qu'on essaye de nous imposer.
Bye. continue avec le monde diplomatique. Il y a une autre spécificité française qui s'appelle la France-Afrique. Avec vous, Anne-Cécile Robert, pour un papier de Boubacar Boris Diop sur justement la France qui serait pour une fois sur la sellette dans l'Afrique de l'Ouest avec la crise ivoirienne et puis récemment la crise togolaise.
Et nous publions un article de Boubacar Boris Diop qui est un intellectuel sénégalais reconnu et qui nous donne le point de vue des Africains sur cette crise ivoirienne qui dure maintenant depuis plusieurs années et qui a valeur symbolique pour beaucoup d'Africains des relations que la France a tissées avec ses anciennes colonies et qui posent de plus en plus de problèmes qui sont de plus en plus contestés. Et là, il prend l'exemple des rapports avec la Côte d'Ivoire où il y a une présence militaire française, il y a beaucoup de Français. La France a des intérêts économiques très importants dans ce pays. Et il montre à quel point la France est un acteur de ce conflit. Et il est tout à fait regrettable que les Français s'intéressent si peu à ce que le gouvernement fait en leur nom dans tous ces pays.
C'est-à-dire que la mission Licorne qui est actuellement en place coûte beaucoup d'argent, engage plusieurs milliers de soldats français, et c'est un enjeu qui apparaît en pointillé dans les médias.
Il n'y a pas de vrai débat en France, ni à l'Assemblée nationale, ni dans l'opinion, sur la présence française en Afrique, les accords militaires, le soutien que le gouvernement français accorde à un certain nombre de régimes, en particulier le Togo. Et l'intérêt du papier de Boubacar Boris Diop, c'est qu'il interpelle les Français sur cette responsabilité en leur disant qu'est-ce que vous faites pour vous informer et pour éventuellement contester un certain nombre de décisions. Dès qu'il s'agit de l'Afrique, on dit ce sont des conflits tribaux, ce sont des conflits ethniques, et Boubacar Boris Diop prend un certain nombre d'exemples de déclarations de ministres français, alors qu'en fait, les conflits africains ont souvent, comme ailleurs, des causes politiques, économiques. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce que rappelle Boubacar Boris Diop, c'est que la Côte d'Ivoire est en crise économique depuis une vingtaine d'années, et que cette crise économique est en grande partie due au choix politique que la France a imposé à ce pays, avec la complicité du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette crise est extrêmement profonde, et comme la France a des intérêts puissants dans l'économie ivoirienne, elle est associée à cette dégradation du niveau de vie par une grande majorité de la population. La France représente un tiers des investissements étrangers dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, et la plupart des entreprises en matière de télécommunications, de transport, de travaux publics sont des entreprises françaises.
De chez nous, c'est-à-dire EDF, Orange,
voilà,
Bouygues.
Des entreprises publiques et des entreprises privées, Bouygues, France Télécom, sont particulièrement présentes. Donc pour les Ivoiriens, la dégradation de la situation économique de leur pays est liée à la présence française. Alors ça peut avoir quelque chose d'injuste, parce que les autorités ivoiriennes ont évidemment leurs propres responsabilités, hein, mais cela dit, on ne peut pas, le gouvernement français ne peut pas se dédouaner des choix et des décisions qu'il impose aux autorités africaines, et en particulier là, aux autorités ivoiriennes. N'oublions pas que l'une des origines de la crise, c'est le jour où le président Laurent Gbagbo a annoncé qu'il allait remettre en cause contrats que certaines entreprises françaises ont avec la Côte d'Ivoire. Quelques temps après, vous avez eu ce phénomène de rébellion, etc. Donc il y a un lien de cause à effet qui peut être rapidement fait par les Ivoiriens et qu'il est intéressant de noter. Et d'ailleurs, l'une des conséquences de l'intervention Licorne, c'est que le président Gbagbo était contraint de confirmer un certain nombre de contrats qui étaient passés avec les entreprises françaises.
Alors, un grand dossier dans ce numéro de mars du Monde diplomatique sur la question de l'eau. Et c'est étrange parce qu'encore une fois, on revient avec des mêmes noms qui passent d'un article à l'autre. Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique avec la SOR, les multinationales Vivendi et Lyonnaise des Eaux. Et voilà que dans cette série d'articles où on va de l'Inde à Neufchâteau en passant par les États-Unis et son voisin canadien, vous faites l'aller-retour entre ces grandes multinationales qui se partagent le marché mondial et nos petits élus locaux, toujours avec cette question de la privatisation de l'eau et du prix qu'elle coûte. Alors par où commencer, Martine Mulla?
S'il y a un lien tout à fait normal, puisque dans le domaine de l'eau, les 5 plus grands groupes mondiaux, il y en a 3 français. Donc effectivement, vous avez cité Vivendi, qui est ex-Vivendi, ex-Général des Eaux et qui s'appelle Veolia maintenant. Il y a l'ex-lyonnaise des Eaux, qui est pour partie lyonnaise des Eaux encore, et surtout Suez, et qui s'appelle Ondéo, et puis il y a Bouygues avec Sor. Donc ces trois multinationales se partagent 99% du marché français. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de monopole public, hein, en nous disant que le monopole public est une vraie catastrophe pour la gestion, pour les prix, pour tout ce que vous voudrez. En vérité, il y a concession du service public français à des entreprises privées qui s'entendent entre elles, qui augmentent les prix, qui travaillent dans l'opacité la plus totale. Il faut savoir que toutes les études montrent qu'environ les prix, si l'on compare les prix de l'eau gérés par les entreprises privées et le prix de l'eau dans le cadre des services publics, le service privé a un coût supérieur de 21% en moyenne. Comment ça se passe? En vérité, les entreprises privées, la Lyonnaise, les Générales des Eaux, sont arrivées comme des euros, en disant, vous allez voir, nous, on a les moyens techniques et surtout les moyens financiers d'intervenir. Les moyens financiers, ça s'est traduit par ce qu'on a appelé des tickets d'entrée dans les communes, c'est-à-dire pour bénéficier des marchés publics, ces entreprises, les unes comme les autres, parce qu'il y a vraiment entente entre elles, ont payé une certaine somme qui pouvait aller à 5, 6, 7, 8 millions de francs pour pouvoir bénéficier de ces marchés. Cet argent est allé pour partie dans les poches des élus, hein, c'est l'affaire de Grenoble que tout le monde connaît avec l'affaire Carignan, mais il y en a eu depuis bien d'autres, soit directement dans la poche des élus, soit en financement des partis politiques, hein, c'est tous les procès de la fin des années 90 et 2000.
Où les hommes politiques disaient, mais j'ai fait comme tout le monde.
Effectivement, c'était visiblement une pratique extrêmement répandue. Le problème, c'est que cet argent-là, que les compagnies prêtaient dans les communes.
C'est le nôtre. Il vient de quelque part.
Et c'est surtout que, non seulement c'était le nôtre, mais en plus, il le faisait payer à chacun de nous, il le faisait payer aux usagers de l'eau. C'est-à-dire que sur la facture d'eau, les compagnies prenaient une certaine dîme pour se faire rembourser des sommes qu'elles avaient prêtées aux communes ou aux élus. Alors, quelquefois, il y a des élus qui n'étaient pas du tout corrompus. Je veux dire par là que l'argent, quelquefois, a servi à construire des patinoires. Mais les élus s'en servaient en disant, voyez, nous, on fait des grands équipements et on n'augmente pas vos impôts. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est que les usagers, les gens de la commune, le payaient à travers l'eau. Alors, en 95, ça a été complètement interdit, évidemment, mais ces pratiques ont perduré, pour une part, et surtout, là, c'est l'opacité totale, c'est-à-dire qu'aucune commune n'est capable de dire, pour traiter l'eau, on utilise, par exemple, 10 salariés de Bouygues ou 10 salariés de Veolia, c'est l'opacité la plus totale. Deuxième élément qui explique aussi cette mainmise des grandes compagnies, non seulement sur le domaine de l'eau, mais on voit que ces mêmes entreprises, Général, Suez et Bouygues, interviennent sur les déchets, interviennent quelquefois sur les pompes funèbres, interviennent sur le chauffage, sur les parkings. D'ailleurs, Marc Lémé, qui est un spécialiste et qui a fait un des articles de ce dossier du Monde diplomatique, montre très bien, prend l'exemple de l'agglomération de Lyon, où 80% des services urbains, c'est-à-dire depuis le parking en passant par l'eau et les déchets et les pompes funèbres, ce sont des entreprises Vivendi et lyonnaises qui se partagent le marché. Et évidemment, elles ont un poids du coup considérable sans qu'on puisse mettre carte sur table du point de vue des prix. Enfin, troisième élément, c'est, comment dire, ces entreprises, notamment lyonnaises et générales, ont servi de recyclage aux hommes et aux femmes politiques. C'est-à-dire quand les hommes et les femmes politiques tout d'un coup se sont retrouvés, n'étaient plus ministres, par exemple, alors qu'ils l'étaient avant, quand ils ont été battus aux élections, eh bien ils se sont recyclés, c'est vraiment le cas de le dire, en ressourcés chez Suez ou chez Général des Eaux.
Et il y a toute une liste qui est dans cet article de jeux de chaises musicales, en fait.
C'est des jeux, c'est-à-dire que ces gens, on a aussi bien gauche qu'à droite, hein, toute une partie du personnel politique socialiste et de droite qui se retrouve employé pendant un temps par Suez ou par la Générale et qui se retrouve après élu de nouveau à traiter des dossiers de l'eau, comme par hasard, de Suez ou de Vivendi. Et on laisse faire, et on se perpétue, et c'est comme ça que les services urbains échappent de fait au contrôle de la population et deviennent de plus en plus onéreux.
Un sujet, Serge Alimi.
Oui, j'ajoute qu'on voit ça d'autant moins d'un mauvais œil que ces groupes, la Générale, Suez et Bouygues, comme vous l'avez peut-être imaginé, pensez au moment où Martine en parlait, contrôle un certain nombre de médias, et les plus importants, comme TF1, Canal+, M6, qui ne sont donc pas particulièrement pressés de développer des enquêtes sur ce genre de sujet. L'insécurité urbaine ou la météo, etc., ce sont des sujets qui semblent plus porteurs pour ces médias qui sont eux-mêmes très impliqués dans les développements que Martine et le dossier du Diplo évoquent que d'autres entreprises.
Maurice Lemoine, vous avez un article de Chavez de Monde Diplomatique, simplement c'est pas Hugo et c'est pas le Venezuela.
Il est pas vénézuélien, c'est Walter Chavez. Et c'est un article que moi je souhaitais intituler « De l'eau dans le gaz en Bolivie ». Puis mes amis m'ont objecté qu'on était dans un journal sérieux, que ça faisait un peu olé olé. Mais en fait, on est dans le pays le plus pauvre du continent américain avec le Nicaragua et Haïti. Et ce qui se passe là-bas est très intéressant parce que d'une certaine manière, c'est un petit peu une sorte de laboratoire de la résistance de l'Amérique latine à tout ce qu'on est en train de raconter là.
Voilà, c'est que là, ce papier qui est sur la Bolivie est une suite parfaite des mobilisations des élus locaux sur la question de la privatisation de l'eau. Simplement là, ça a pris un échelon supérieur puisque c'est des manifestations de masse.
Voilà, non seulement les élus locaux, mais enfin ce qu'on appelle les mouvements populaires. Alors, on a vu des choses extraordinaires en Bolivie, enfin de notre point de vue, hein, pas du point de vue de tout le monde. Par exemple, en février 2003, le Fonds monétaire international impose ses mesures habituelles
privatisation.
Et en particulier une diminution drastique des salaires et en particulier dans la fonction publique. Et on voit à cette occasion la police se révolter, la police affronter l'armée, c'est-à-dire que c'est dire le niveau de confrontation dans laquelle on arrive. 6 mois plus tard, on a ce qu'on a appelé la guerre du gaz. Alors la guerre du gaz, c'est quoi? C'est une énorme multinationale, Pacific LNG, qui regroupe la Repsol espagnole, la British Energy British comme il se doit, et puis la Pan American Energy américaine comme il se doit, qui prétendent exporter le gaz bolivien, hein, la Bolivie est un des plus importants producteurs de gaz en Amérique latine, vers le Mexique et la Californie. Ce qui en soi n'a rien de forcément scandaleux, mais évidemment aux conditions du marché, aux conditions des multinationales, et en aucun cas en ayant une politique d'utilisation nationale stratégique des ressources. Moyennant quoi, la population se soulève. La population se soulève contre la multinationale, contre le gouvernement, bien sûr, qui est complice de la multinationale. On a une guerre qui fait 67 morts, 400 blessés, hein, c'est pour ça que je parle d'une guerre. Et puis, on a le renversement, tout simplement, du président Sanchez de Lozada. Et puis, nouvelle guerre, et là je vais être bref, le 11 janvier dernier, là c'est la guerre de l'eau. Et là, on rejoint le dossier qu'a piloté Martine. On s'est pas concerté. Là, c'est l'actualité sur la Bolivie qui nous a amené à en parler. Et qui retrouve-t-on? Qui retrouve-t-on? Ben, on retrouve Suez, Lyonnaise des Eaux, hein, qui s'est installée en Bolivie, qui est à La Paz, la capitale administrative, et l'Alto, qui est un immense bidonville situé à 4000 mètres d'altitude, 2 millions de personnes, dans lequel la Suez, Lyonnaise des Eaux, augmente les prix de l'eau de 600%, rend quasiment impossible les raccordement au réseau en fonction des coûts, alors qu'on a 40 000 familles qui sont pas raccordées. Là encore, explosion populaire, et Suez, Lyonnaise des Eaux, vient d'être expulsée de Bolivie, purement et simplement. C'est la deuxième compagnie multinationale qui est expulsée, puisque la Bechtel, qui s'occupait aussi de l'eau, a aussi coulé en avril 2000. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que ce qui s'est passé en Bolivie, c'est quand même le symbole de ce qui se passe en Amérique latine. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, on avait publié cet article sur l'Uruguay, où la population, par référendum, a refusé la privatisation de l'eau. On a en ce moment un mouvement de femmes au Chiapas, des femmes zapatistes, qui sont en train aussi de faire reculer les politiques de l'eau. On a l'air un peu obsédé ce mois-ci sur l'eau, mais c'est important, c'est un, comme on dit bien souvent, un bien commun de l'humanité. Et puis, en ce qui concerne l'Amérique latine, et je terminerai là, tout ça est très intéressant dans la mesure où, je vous le rappelle, 2005 était théoriquement l'année au cours de laquelle devait être instaurée la grande zone de libre-échange américaine, hein, l'ALCA, qui était en fait l'ensemble de l'Amérique livrée au marché, et manifestement ce grand projet américain ne pourra pas être mis en place, et on se rend compte, au-delà de l'amorosité que parfois on ressent devant ce qui nous apparaît comme un retrait des mouvements sociaux, quand en ce qui concerne l'Amérique latine, il y a au contraire une avancée.
De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loque, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la breloque, le dollar. Mais par milliers de la vieille Europe, qui tend sa ferme, son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part, ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le Dieu dans son église, le Dieu dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, ce soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Il éclaire le monde de son feu criard, et les hommes à la ronde l'adorent sans retard. Ne perd pas le nord, vous pensez, juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer, ça part. On joue, on perd, on gagne, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, on devient riche, dollar. On met les vieux pneus en conserve, et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec ta vie, dollar. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on débite dans chaque église, aux enchères comme une marchandise à coups de dollars.
Serge Halimi, commentaire de texte d'un article d'Ibrahim Ward, qui est en première page du Monde diplomatique, sur la saga du dollar et l'importance pour les échanges internationaux, donc pour la politique internationale. Il se trouve que la France est dans le rouge, des mauvais élèves de l'Europe pour ses déficits publics, alors que les États-Unis s'autorisent en toute largeur à des déficits colossaux historiques. Tout ça en mettant en balance les monnaies les unes contre les autres, et le dollar et son rôle politique sur l'économie mondiale.
Oui, l'article, l'analyse d'Ibrahim Ward énonce un paradoxe apparent en disant que le sort du dollar se joue à Pékin. Alors, pourquoi? Il faut résumer l'histoire. C'est un écheveau, je vais essayer de le faire de manière aussi claire.
Voilà, c'est un jeu à quatre bandes.
Voilà. Il faut commencer en évoquant le déficit commercial américain, qui est record, 618 milliards de dollars, soit 5,3% du PNB. Et on peut l'évoquer à travers un chiffre simple. À l'heure actuelle, les États-Unis achètent 50% de plus qu'ils ne vendent à l'étranger. Bon, au même moment, les États-Unis ont également un déficit budgétaire record, 412 milliards de dollars, 3,6% du PNB, alors même que le taux de croissance américain est relativement fort. Et quand un pays a un taux de croissance élevé, en général, son déficit budgétaire baisse parce qu'il y a davantage de rentrées fiscales. Mais comme vous le savez, la politique du président Bush, qui s'inspire d'ailleurs de la politique de ses prédécesseurs, a été de réduire sans cesse les recettes fiscales, de réduire les impôts, qui maintenant ne représentent que 16% de la richesse nationale contre 21% il y a 4 ans.
Et donc réduire la marge d'intervention de l'État.
Donc, oui, évidemment. Donc, vous avez un pays qui a à la fois un déficit budgétaire considérable, supérieur à ce que permettraient les critères de Maastricht, par exemple, et un déficit commercial colossal. Pour un autre pays que les États-Unis, la combinaison de ces déficits, les déficits jumeaux, comme on dit, provoquerait un effondrement de la monnaie. Pas une chute. Le dollar a déjà baissé de 20% par rapport à l'euro ces dernières années, mais un effondrement. Et pas seulement un effondrement de la monnaie. Pour un autre pays que les États-Unis, il y aurait les semonces du Fonds monétaire international et un plan d'austérité draconien. Rien de tel dans le cas des États-Unis. Alors on est face à ces déficits colossaux. Que se passe-t-il dans le cas des États-Unis? Au moment où ces déficits sont enregistrés et ne semblent pas du tout se réduire, d'une part, le président Bush relance les dépenses militaires et il propose une réforme des retraites. Réforme, vous mettez tous les guillemets de rigueur, c'est-à-dire une contre-réforme, c'est-à-dire une régression sociale qui débouche sur la privatisation à terme de ces retraites. Et il dit aux salariés, aux jeunes salariés qui cotisent à l'heure actuelle, une partie de votre cotisation, eh ben, versez-la pour ce que sera votre retraite future.
Donc un fonds de pension.
Voilà, un fonds de pension, une privatisation à terme. Mais ça veut dire que ce que le jeune salarié ne paie pas, eh bien l'État doit le payer pour financer les retraites de ceux qui sont partis à la retraite. Donc dépense à terme, qui est une dépense considérable pour l'État, de 750 milliards de dollars sur les 10 ans. Donc au moment où vous avez un pays qui a un déficit budgétaire déjà colossal, non seulement il relance de manière assez spectaculaire ses dépenses militaires, mais ensuite il lance un plan de privatisation des retraites, qui dans les 10 années à venir en tout cas, impliquera des dépenses colossales. Alors, que se passe-t-il? Comment expliquer ce paradoxe? Comment expliquer ces déficits colossaux, des mesures qui ne font rien pour résorber le déficit? Eh ben, l'explication que rappelle Ibrahim Vard et qu'il détaille dans cet article, c'est que les banques centrales étrangères, asiatiques en particulier, qui accumulent des dollars, puisque les entreprises asiatiques ne cessent de vendre aux États-Unis.
Et que les Américains ne cessent d'importer.
Et que les Américains ne cessent d'importer, au lieu de les vendre, comme elles le feraient si c'était une autre monnaie, les stockent. Ce qui fait que les réserves de dollars des banques centrales asiatiques ne cessent d'augmenter. Et qu'à l'heure actuelle, elles détiennent environ 2000 milliards de dollars. Vous voyez, une somme colossale. Alors, question qui se pose, mais pourquoi ne les vendent-elles pas? Surtout quand on sait que le dollar a plutôt tendance à baisser. On peut pas dire que ce soit un bon placement. Vous détenez un placement de 2000 milliards de dollars et tous les jours, le dollar perd un peu de sa valeur. Eh bien, elles ne les vendent pas pour une raison très simple, c'est qu'elles savent que si elles les vendaient, la conséquence immédiate, ce serait le relèvement de leur monnaie. Le relèvement de la valeur de leur monnaie. Et elles ne veulent pas que leur monnaie augmente parce qu'elles ont une politique du yuan ou du yen ou de ces pays asiatiques faibles, précisément parce qu'elles veulent continuer à vendre. Elles ont donc une politique qui est la politique de la monnaie asiatique faible. Les États-Unis ont aussi une politique du dollar faible. Le seul ensemble continental qui a une politique de la monnaie forte, c'est plutôt l'Europe, puisque la politique de l'euro est une politique qui cherche à maintenir sa valeur.
Et là, Eurofort.
Un euro fort. Et là, on s'installe dans un formidable paradoxe, puisque les États-Unis sont à la fois le pays le plus endetté de la planète et le pays qui imprime la monnaie de réserve de la planète. Donc pour lui, c'est très facile, c'est ce que le général de Gaulle déjà appelait le privilège exorbitant des États-Unis. Le pays s'endette davantage en imprimant davantage de dollars, confiant qu'on ne lui en demandera jamais la contrepartie. Comment ça se passe un peu plus concrètement? Les banques asiatiques non seulement stockent des dollars, mais quand elles ne les stockent pas, elles utilisent ces dollars pour acheter des bons du trésor américain qui sont imprimés à mesure que le déficit budgétaire américain s'accroît. En d'autres termes, le déficit commercial des États-Unis finance le déficit budgétaire des États-Unis.
On fait marcher la planche à billets.
On fait marcher la planche à billets et on peut le faire parce que quand on s'endette, on sait que les banques asiatiques sont derrière. Mais alors tout ça, c'est un pari. Jusqu'à quand? Et l'article d'Ibrahim Vard rappelle que tout de même, les relations entre les États-Unis et la Chine sont pas des relations idylliques, que leur vision stratégique n'est pas la même. On voit à l'heure actuelle que sur le dossier des ventes d'armes, le président Bush a chapitré les Européens en leur disant « ne vendez pas d'armes à la Chine », alors même que l'économie américaine est de plus en plus tributaire de la bienveillance des banques centrales asiatiques et en particulier de la bienveillance de Pékin.
More bi bakhta, more bi bakhta, prokleto ave, more bi bakhta, prokleto ave.
Merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique qui était aujourd'hui autour de Guy Vanctil, Bernard Cassen, Alain Grèche, Anne-Cécile Robert, Martine Bullard, Maurice Lemoine, Serge Jalimi et Dominique Vidal qu'on n'a pas tellement entendu, pourtant c'est lui qui donne le dernier papier, le papier de la DH, la dernière heure, c'est-à-dire le papier de la quatrième de couverture du diplôme de ce mois de mars sur les commémorations. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Enguerrand de Sade. L'équipe de la basse, j'y suis, c'est Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01-56-40-37-37, 01-56-40-37-37. Antoine Chaot, Yann Chouquet, Pascal Pascariello, c'est l'équipe de la basse, j'y suis. Demain, donc, à 17h, comme je vous l'ai annoncé, en début d'heure, on rendra un hommage à notre ami Yann Parentoen, qui a lâché son Nagra il y a quelques heures. Nagra, homme Nagra, en polonais, ça veut dire, si je ne me trompe pas, on enregistra, on a enregistré. On écoutera demain ce qu'on a enregistré, ce qu'il a enregistré. Dans 1 minute et 2 secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau avec son charivari. Pour nous, à demain, 17h, là-bas si j'y suis. Salut.